Chapitre 16. Déambulant dans la maison qu'il a récupérée, Christopher finit par s'arrêter sur la jonction entre le corps de bâtiment le plus ancien et la véranda moderne. Il observe le double vitrage et son profilé aluminium intégré dans les pierres maçonnées 5 siècles plus tôt. Un pont entre un lointain passé et le présent, improbable frontière du verre et de la lumière avec le granit et l'obscurité. Il caresse les masses rocheuses comme s'il s'agissait d'animaux familiers, tentant d'imaginer la vie des occupants de cet espace suivant les époques. Chris se tient aujourd'hui dans le foyer de l'homme qui dirigeait le village la nuit du drame. Un même lieu pour des existences si différentes. Comment se présenterait-il à ses ancêtres s'il les rencontrait? Que pourrait-il leur confier pour qu'ils se comprennent? Abstraction faite des vêtements, de l'instruction et du mode de vie, à quoi se résume la réalité brute d'un homme? Quelle est finalement son essence? Chris n'a sans doute pas grand-chose en commun avec celui qui menait Killthorpe, et pourtant le voilà exactement au même endroit. Que pourrait-il partager? Deviendrait-il proche? Le monde a beaucoup changé, mais finalement, les sentiments humains n'ont probablement pas tant évolué que ça. Davantage que chercher à spéculer sur la personnalité de Seamus Kinloch, Christopher se demande surtout de quel bois il est lui-même fait. Il ne va pas s'y attarder trop longtemps, car après les rencontres riches en émotions de la journée, il n'est pas mécontent à la perspective de passer une soirée paisible en tête-à-tête avec lui-même. Neil Hanford et même le jeune Edward lui donnent déjà beaucoup de fil à retordre. Quant à Linda, l'impression qu'il en garde est celle de s'être blotti contre une inconnue comme s'ils étaient les deux derniers êtres humains vivant sur Terre. Des mouettes traversent le ciel en criant. Chris les suit du regard. La marée est déjà descendante. Quand il est repassé par l'auberge en fin d'après-midi, pour prévenir qu'il ne rentrerait pas ce soir, la patronne a tenu à lui préparer un pique-nique. Le coucher de soleil s'annonce exceptionnel. Les nuages, comme les pans d'un titanesque décor, diffractent ses rayons pour sublimer sa sortie de scène. L'écume des vagues fracassées contre les récifs se pare de reflets scintillants. La baie est une arène antique, tournée vers la seule représentation dont l'homme ne fixe pas l'horaire. Même s'il a l'impression de squatter une ruine, cette parenthèse dans cette retraite coupée de tout ne peut être que salutaire pour Christopher. Pas même un livre à lire, tout au plus les annexes techniques de son acte de propriété. Une vraie fête. Il a installé son lit de fortune près de la cheminée, dans l'angle du mur. Malgré la fraîcheur, il ne compte pas se risquer à allumer un feu. En livrant la commande de matériel, Ferguson lui a fait cadeau d'un siège de plage pliant. Le commerçant s'est excusé des couleurs délavées, expliquant qu'il n'avait pas réussi à le vendre en 5 ans. Puis a doctement conclu qu'à Killthorpe, personne ne va à la plage, parce qu'il n'y en a pas. Christopher prend place dans le fauteuil de toile, face à la vue de la véranda. À la faveur de l'obscurité qui envahit le paysage, le faisceau du phare se matérialise de plus en plus nettement et balaie régulièrement le cirque naturel. Il éclaire du port jusqu'aux falaises, en passant par les premiers îlots et le cimetière. Le vent s'insinue par les multiples ouvertures de la vénérable masure. Son souffle ressemble parfois à des plaintes montées de l'au-delà. Une ambiance pareille dans un endroit aussi isolé à la nuit tombante pourrait terrifier beaucoup de monde. Mais pour Chris, cela réveille avant tout les souvenirs d'enfance partagés avec son grand frère, Michael. Chaque fois qu'ils séjournaient chez leurs cousins, tous deux faisaient équipe pour leur traditionnel cache-cache. Les frères Rognard formaient un tandem imbattable. Ils n'hésitaient jamais à se terrer dans les recoins les plus sombres. Personne n'était plus téméraire qu'eux à ce jeu-là. Ils avaient compris que se risquer, là où les autres ont la trouille d'aller, procure de réels avantages. C'est guidé par Michael que Chris a appris à ne plus avoir peur du noir. C'est à ses côtés qu'il a tenté beaucoup de premières fois. C'est également à son frère et à leur père que Christopher doit sa leçon la plus marquante et la plus douloureuse. Le manque des êtres que la vie peut brutalement vous arracher. Aujourd'hui, Chris ne redoute plus l'obscurité, mais il la déteste, parce qu'elle lui rappelle le vide qu'ont laissé ceux sans qui il a eu tant de mal à se construire, si tant est qu'il y soit parvenu. Le couchant était sans doute magnifique, mais Christopher n'en a rien admiré parce qu'il s'est assoupi. Il rêve de Linda Forsythe et de la malédiction. Il se voit nager dans un océan de fougères en furie pour essayer de récupérer des dizaines de ballons bleus avant que les tiques ne marquent un but. En dormant, même d'un sommeil tourmenté, il ne voit pas le temps passer. Chris n'a aucune idée de ce qui a pu le réveiller en sursaut, mais lorsqu'il ouvre les yeux, il fait si noir autour de lui qu'il en éprouve le vertige. À peine s'est-il remis de sa chaotique reprise de conscience que d'étranges craquements à l'extérieur de la maison attirent son attention. À intervalles réguliers, le faisceau du phare illumine brièvement la véranda. L'esprit embrumé, toujours avachi dans son fauteuil de toile, Chris ne bouge pas. Il écoute. Il détecte soudain un autre type de bruit, plus discret, assez proche de la baie vitrée. C'est certain, une masse se déplace dans la végétation. Chris songe tout à coup au sort funeste promis par Linda. Cela ne paraît plus si absurde à présent. Lui qui se réjouissait d'une soirée tranquille se retrouve avec le cœur palpitant d'un animal acculé. Il ne distingue rien dans les ténèbres. C'est seulement quand passe le rayon du phare qu'il dispose d'un bref flash de lumière pour s'efforcer d'appréhender son environnement. Chris capte tout à coup un mouvement de branchage qui n'a rien de naturel. Son sang se glace. Mais avant qu'il ait pu en voir davantage, le jardin replonge dans la nuit. Il prend soudain conscience qu'à chaque passage du faisceau, il est lui aussi visible. Pour celui qui rôde dehors, il devient une cible idéale offerte dans une vitrine. Profitant de la séquence d'obscurité, il bondit hors de son fauteuil et se précipite pour s'accroupir dos au mur, loin des vitres. Ce poste d'observation moins exposé lui ouvre un autre angle de vue. Le pinceau lumineux repasse. Chris, désormais parfaitement réveillé, compte mentalement. Il bénéficie de moins d'une seconde de lumière avant une pause 20 fois plus longue. Il est aveuglé à chaque fois et le temps que demande sa vision pour se réadapter ne joue pas en sa faveur. Louis devient essentiel et il ne fait désormais aucun doute que quelqu'un s'approche dans les buissons. Quelques passages de lumière plus tard, Chris est même convaincu qu'ils sont plusieurs. À l'illumination suivante, il aperçoit une ombre tapie au pied d'un rocher. Chris tressaille. Bon sang, il aurait dû dormir à l'auberge. Linda avait raison, ils vont s'en prendre à lui. Lorsque le faisceau se profile à nouveau, il réalise qu'il n'a strictement rien pour se défendre. Il regrette le piège à loup et même l'appel qui aurait fait une arme acceptable. Combien de temps le précédent héritier a-t-il tenu la place? Lui au moins a eu l'opportunité d'installer une station solaire. Pour sa part, Chris n'aura même pas réussi à poser une nouvelle serrure sur la porte d'entrée, qui d'ailleurs vient de grincer. Retenant son souffle, Rognard se couche à plat ventre et tente de résister à la panique qui s'empare de lui. Dans toute l'histoire de la maison, il est sûrement le premier à s'aplatir ainsi sur ce sol en étant terrifié à ce point. Ce sera sa contribution à l'histoire du lieu. Pour le reste, il risque de battre le record de la durée d'occupation la plus courte. Proprio le matin, désingué la nuit même par la malédiction qui rôde dans les fourrés et est apparemment venu avec un complice puisqu'il entend maintenant ce qui ressemble à des pas dans la partie la plus récente de la maison. Il risque un œil par la véranda. Et ses cauchemars prennent une autre forme, celle de côtelettes et de pulls sur pattes. Ce sont des moutons qui traînent dans les fourrés. Ils sont deux. Rognard se relève, soufflant profondément. « Je sais, » grommelle-t-il à leur intention, « vous avez le droit d'être là et je ne peux rien vous faire. N'empêche, même en tant qu'herbivore, vous m'avez foutu une sacrée trouille. » Chris se détend, trop heureux de s'être fait des idées. Quel amateur d'avoir cru qu'on l'attaquait jusque dans sa maison. Son rythme cardiaque revient progressivement à la normale. Il est d'ailleurs plutôt satisfait d'avoir de la compagnie, même si la conversation risque d'être limitée. Dans l'obscurité régulièrement ponctuée par le phare, il se retourne pour gagner la partie récente de la maison, décidé à savourer ce que lui a préparé la patronne de la taverne afin de penser à autre chose. D'ailleurs, ses émotions lui ont donné faim. À peine est-il au seuil de la grande salle qu'il est saisi d'une nouvelle terreur. Un mouvement furtif attire son attention du côté de la pièce du fond. Une ombre vient de s'y précipiter, trop haute pour être une bête sauvage, trop silencieuse pour être honnête. S'il ne s'était pas retourné, elle se serait jetée sur lui par surprise. Chris empoigne sur la table le pathétique couteau en bois fourni avec son repas et crispe les phalanges dessus. Ce genre de gadget n'arrive même pas à découper un steak haché, alors à quoi pourrait-il lui servir dans un corps à corps? Sans bruit, il s'approche à pas de loup de l'embrasure où s'est glissée la forme et s'embusque au coin du buffet. Il est prêt à courir le risque d'une confrontation plutôt que de subir les intentions hostiles de son adversaire. Il lui semble percevoir le froissement d'un vêtement. Il hésite à interpeller l'intrus, mais juge plus prudent de demeurer silencieux. Son esprit crépite de questions. Plaqué au mur, n'ayant aucune idée de ce qu'il risque d'affronter d'une seconde à l'autre, il prend une longue inspiration, cramponné à son arme dérisoire. Alors qu'il se focalise sur la présence tapie dans la pièce du fond, c'est la porte d'entrée qui s'ouvre violemment derrière lui. Chris fait volte-face. Une lampe torche l'aveugle, et même si ce n'est pas son genre, il pousse un cri rauque.